This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, l'émission où on parle de toutes les séries, tous les films Marvel. On vous décortique tous les épisodes semaine après semaine. On vous accompagne dans votre geekerie et dans notre geekerie pour comprendre un petit peu toutes les implications de toutes ces séries absolument formidables où on plonge dans les univers des super-héros qu'on préfère. Je suis Patrick Béja et je suis avec Johan qui est là avec moi, juste là. Voilà. Bonjour, comment ça va Johan ?
Eh bien, ça va, super. On avait commencé à l'évoquer la semaine dernière. On a eu la super semaine de l'E3. Donc, j'imagine que pour toi aussi, ça a dû être... Moi déjà, c'était un peu fatigant pour moi en tant que juste spectateur et amateur. Toi en plus, t'as dû pas mal suivre de très très près toutes ces infos, oh là etc. Là. Et toutes les émissions qui devaient être à rallonge.
Exactement. Des conférences à regarder, plus des chaînes YouTube, enfin des émissions sur YouTube et des podcasts à écouter pour essayer de bien tout comprendre et savoir qu'on n'a rien raté. Avec en plus le petit qui est malade à la maison, la petite qui est tombée malade aussi, nous qui sommes malade. Heureusement qu'il y a eu l'épisode 2 de Loki pour nous proposer un petit îlot de dépaysement au milieu de tout ça. En plus, c'était un épisode qui était plutôt sympa et qui a introduit plein de choses. On va se lancer directement. Hein. Après un épisode 1 qui nous a tous les deux ravis, est-ce que l'épisode 2 t'a plu ?
Bah toujours autant, ouais. Moi, je suis toujours dans le truc. Je m'attendais pas.
T'es dans le Loki mood, Loki life.
Ouais. J'étais très content en fait que ça reste un petit peu dans la TVA. Tu sais, j'avais dit que j'avais peur qu'on parte un peu trop loin dans les différentes dimensions. Et finalement, on reste dans ces bâtiments que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont vraiment vraiment incroyablement bien réussi cet environnement là.
La scène avec l'ascenseur qui descend dans un bâtiment absolument incroyable. Tu sais que c'est un vrai bâtiment, c'est un hôtel avec tous les.
Ah bon ?
Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Ouais, c'est un hôtel, c'est un Marriott. Alors évidemment, ils ont rajouté les lézards de l'espace, les timekeepers en bas. Hein. Ils sont pas dans le vrai bâtiment, mais ce truc existe avec l'ascenseur qui descend. Si vous revoyez l'épisode, c'est un hôtel et j'étais estomaqué quand je l'ai vu. Je me suis dit waouh, ouais, ça c'est un truc, tu vois qu'ils ont dû faire en image de synthèse. En fait, non, c'est un truc qui existe vraiment. Donc,
j'irai regarder pour aller voir ça. Et du coup, je m'attendais pas à ce que ça décolle autant, en fait. Parce que du coup, on reprend pile la suite et l'ambiance un petit peu, quand même assez lente globalement de la série, même si ça commence par une bagarre. On reste sur les acquis. Et puis à la fin, là, il y a ces explosions qui viennent bombarder la timeline. Et là, on a vraiment envie de voir la suite. Là, pour le coup, on a envie de lancer le suivant tout de suite. Hein, mais...
sur le début de l'épisode, j'ai trouvé que ça... Alors, intéressant, mais j'ai trouvé quand même un petit peu plus plat que l'épisode précédent. C'était des petites... la discussion avec Miss Minute était intéressante. L'enquête, finalement, était intéressante aussi. C'était de l'exploration de l'univers Marvel dans ces séries qui étaient intrigantes. Et puis si on part un petit peu en... Je ne sais plus à quel moment c'était, mais quand il parle des variants, par exemple, des différentes versions de Loki qui existent, j'ai trouvé ça hyper habile parce que comme à chaque fois qu'il y a une idée farfelue dans l'univers de Marvel... ils réussissent à la normaliser en quelques phrases. Et là, en l'occurrence, je suis sûr que beaucoup de gens ont pensé à « Oh, bah ok, il y a différentes versions de Loki dans le contexte de la série Loki et de la TVA. » Mais ce que ça fait, c'est que ça normalise les différentes versions de tout le monde, et surtout des super-héros, dans le multivers Marvel. C'est complètement fou ce qu'ils ont fait en une demi-scène. Ça veut dire que si demain ils décident que Spider-Man, qui est, on le sait, dans une sorte de néant légal entre Marvel et Sony, dans la propriété du MCU, et ben si demain on va dire il y a plusieurs versions de Spider-Man, tout le monde va dire oui, ok, bien sûr, comme Loki. Alors que avant cette scène, on aurait dit, mais attends, comment ils vont l'expliquer? Comment ils vont dire que? Comment? Et là, en deux secondes, ça a été complètement arrangé. Et j'ai trouvé ça hyper habile, comme d'habitude. Et puis en plus, c'est un petit bonbon pour les fans de Marvel, tu vois. C'est encore un élément du comique farfelu qui s'insère dans l'univers cinématique. C'était hyper, hyper bien fait. Mais c'est qu'un extrait,
ouais,
qu'une petite partie.
J'aime bien aussi cette séquence parce que, effectivement, comme tu le dis, il te montre rapidement que finalement la personne qu'on cherche, parce qu'au début on comprend qu'on va chercher un Loki, mais du coup tu vas t'imaginer un autre Loki, donc le même acteur, qui fait des choses de son côté, etc. Donc avec cette scène-là, on te prépare à imaginer d'autres choses. On te dit en fait le Loki qu'on va chercher, il va ressembler peut-être à Hulk, il va peut-être ressembler à un gros barbu, mais comme on te montre que des mecs, on garde aussi l'effet de surprise de en fait c'est une femme, donc. Moi j'aime bien, je trouve que c'est très efficace comme façon d'apporter d'amener ce variant là, donc
ouais.
J'ai bien aimé aussi, ouais.
On est d'accord. Quel est ton, je sais pas si on doit, comme la dernière fois ou pas comme la dernière fois, couvrir chaque scène, mais quel est ton moment préféré de cet épisode?
Alors moi, mon moment préféré, c'est donc du coup, c'est. Alors, je suis un peu comme toi.
Peut-être n'allons pas à la fin. Oui, j'allais dire. Ouais, je crois que ça va être le moment préféré de tout le monde, mais du coup, peut-être parlons d'enquête.
Justement, non. Je pense que je vais être original sur ce point-là. Mais du coup, juste pour revenir, effectivement, le début est un peu long parce que du coup, ils se rendent sur les lieux d'une variance dans le temps, et on voit un Loki qui essaye d'embobiner tout le monde sur son histoire de il est dehors, il va vous tuer, etc. Et je trouvais que c'était un peu bizarre parce que je pensais qu'on avait déjà dépassé ce Loki là, quoi, dans l'épisode d'avant. Mais du coup, ce que ma scène préférée, ça arrive juste après, donc il est un peu puni, il doit potasser tous les fichiers relatifs à Loki. Et donc il y a cette scène où il va voir la documentaliste de la bibliothèque et qu'il essaie d'avoir des documents sur le tout début du monde, enfin le tout début de la timeline ou la toute fin. Mais ouais, il y a toute cette séquence en fait où il imagine cette théorie de pouvoir se cacher dans les apocalypses, et où il en fait la démonstration. Et en fait, j'ai adoré découvrir ça avec lui, le voir en fait expliquer ça à Mobius avec une salade et du sel et poivre, que j'ai trouvé ça nul, mais tellement drôle à la fois. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens de cet épisode-là. Hein. J'avais vraiment adoré ce moment, quoi.
J'avoue que c'était hyper bien trouvé, parce que dans la logique qu'ils ont établie, effectivement, si la timeline, les changements... Bon, ils ont introduit ça en début d'épisode, en fait. C'était pas tout à fait dans les règles, le fait qu'au moment de la variance, il y a quand même un changement exponentiel dans cette timeline qui mène à la création d'une nouvelle timeline. S'il n'y a pas suffisamment de changements, ça ne crée pas une nouvelle timeline. Donc, c'est, comment dire, un petit peu... il joue un petit peu avec ce qu'il nous avait établi, mais il n'empêche, dans ces conditions, le fait que si on est au milieu d'un truc où de toute façon tout va se casser, ça ne va pas contaminer le reste de la timeline, et donc on peut faire ce qu'on veut et ne pas être repéré. C'est logique, ou en tout cas c'est simili-logique, comme on peut, on a souvent ce type de choses c'est la simili-véritude, c'est comme ça qu'on dit en anglais, c'est logique dans la logique interne de ce truc, et c'est hyper bien trouvé effectivement. Ouais. Sur la première scène, quand il est dans cette zone, j'étais un peu déçu, quand ils sont sur le lieu de l'enquête, j'étais un peu déçu parce que dans le château, oui, avec le... D'ailleurs, il y a des gens qui disaient que la nana qui les voit arriver et qui dit « Non, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas en costume ?» C'est pas... Il y a des gens qui disaient que c'était Agatha Harkness. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu...
Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on a notre ami commun Kassim qui venait juste de me le dire là avant qu'on commence l'émission. Je savais pas que, je savais pas que des personnes avaient vu ça aussi.
C'est
Ouais.
bon, alors c'est une
Et
femme
s'il y
qui
a
a un petit
plusieurs
peu la même
personnes,
coiffure, peut-être.
c'est qu'il doit y avoir quelque chose, mais
Ouais.
c'est
Bon,
pas elle.
ça restera un clin d'œil au pire si c'est ça, mais.
Non, non.
Mais donc, dans cette scène-là, j'ai trouvé Loki assez faible, en fait, assez mauvais dans son embobinage. Et justement, normalement, c'est là qu'il est habile, c'est un petit peu son super pouvoir de pouvoir manipuler les gens. Et en fait, à la fin de l'épisode, il dit « Je les ai même ralentis pour que tu puisses faire ce que tu voulais, ou tu vois, pendant qu'on était là-bas. » Donc finalement, ça l'a un peu rattrapé. Je me suis dit, peut-être que c'était débile, mais le but n'était pas de les convaincre, le but était juste de les ralentir. Et du coup, il a quand même réussi son coup. Ou alors, peut-être que c'était, je sais pas, du coup, ça m'a mis un doute, et c'était pas trop mal joué, sur cette
Moi, je me
scène-là pour
demandais
me retourner.
s'il essayait pas de tester le, c'est de ralentir tout le monde pour voir si la courbe dépasse la ligne rouge et que et voir ce qui se passe, tu vois. Je pensais qu'on était dans ce registre-là, mais finalement pas. Effectivement, c'était peut-être pour lui faire gagner du temps ou pas. Enfin, c'est vrai que c'est un personnage quand même assez.
Ben
Voilà, c'est du mal à le saisir quand même, même quand il fait semblant, tu sais pas
ouais,
trop
c'est ça,
pourquoi il
c'est
fait
ça,
semblant, en
c'est
fait.
exactement. Tu sais pas s'il fait semblant ou pas semblant ou ce qui. C'est intéressant cette histoire de ligne rouge parce que si jamais il ne supprime pas la nouvelle timeline avant que ça atteigne cette ligne rouge, c'est ce qu'on a appris aussi dans cet épisode qui n'était pas là avant, bah ils peuvent plus la supprimer. Et donc c'est hyper important quand même pour l'histoire de ce multivers. Et ça a pas l'air de prendre si longtemps que ça, hein, quelques minutes, au pire quelques heures, et ils peuvent plus supprimer la timeline. Ils sont quand même sacrément efficaces, hein, les TVA agents, pour réussir à tout clipper. En même temps, ils peuvent se balader un petit peu comme ils veulent dans le temps. Donc, ils sont pas obligés de tout faire en même temps, ce qui pose des questions pour l'attaque de la fin de l'épisode. On a aussi la scène, comment elle s'appelle, avec Ravonna, Renslayer, avec Mobius qui va voir donc la juge. Et toute cette discussion sur les Timekeepers, où on apprend que Mobius ne les a jamais vus, et elle qui le rassure en disant non, mais t'inquiète pas, ils regardent ça de très très près, ils sont hyper attentifs à tout ça, et ils ont presque fini leur travail de resserrage de la timeline, et à partir de là, on l'apprend ensuite avec la discussion avec Loki de Mobius, mais à partir de là, bah, on va tous se retrouver à la fin des temps, c'est un petit peu thème biblique qui je suis sûr qu'on retrouve dans de nombreuses mythologies dans l'histoire. Mais du coup, ça me permet d'évoquer une idée qu'on n'avait pas évoquée à l'épisode précédent, qui est la présence dans tout ça de Kang, le conquérant. Est-ce que tu sais qui est Kang?
Alors, je sais qui est Kang, parce que je me suis renseigné un tout petit peu suite du coup à l'annonce qu'il apparaîtrait. Je crois qu'il est au casting de Ant-Man, alors on ne sait pas trop comment. C'est un personnage assez particulier, donc je ne sais pas si tu veux détailler.
Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est effectivement un personnage hyper important du futur et qui manipule le temps. Donc on est quand même pile là dans le truc, mais c'est l'un des méchants les plus importants non, c'est pas vrai de dire les plus importants, mais les plus puissants de Marvel. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très, très. Comment dire? Qui peut avoir une influence énorme sur le multivers. Et on pourrait se dire que l'un des Space Lizards peut peut-être ressembler un petit peu à l'imagerie qu'on a de Kang dans le MCU. Peut-être, peut-être pas. Mais il y a un truc bizarre qui se passe avec les Timekeepers. Clairement, il y a un truc bizarre. Et le fait que Kang soit impliqué, Kang qui est plutôt lié à l'univers des Quatre Fantastiques, même si là, il sera, semble-t-il, dans Ant-Man. Il pourrait au moins, je dis pas qu'on va le voir dans la série, mais peut-être introduire l'idée ou le concept de Kang et que les Timekeepers ne sont pas ce qu'on pense qu'ils soient. Enfin, clairement, il y a un truc bizarre avec ces Timekeepers, quoi.
Il me semble, quand j'avais regardé du coup ce personnage-là, que lui-même en fait était présent en de nombreuses variations en fait dans le MCU, lui-même oubliant qui il était, parce qu'il, comme il voyage dans le temps lui-même, il doit, j'imagine, se perdre un peu dans toutes les temporalités et ses identités. J'ai l'impression que c'était un personnage qui était lui-même très variable, on va dire. Et donc On verra ce qu'en fera le MCU, mais effectivement, c'est un personnage qui a été souvent mentionné à l'arrivée de la TVA et de la série Loki. Donc je suis assez curieux. Pour ce qui est des timekeepers, on sent qu'il y a quelque chose qui est très louche. Hein. Les gens ne les ont pas vus. Est-ce qu'ils existent? Si ça se trouve, derrière, il y a une seule personne. Si ça se trouve, ils sont morts depuis longtemps. Dans ces jeux de temporalité, il y a assez de littérature science-fiction pour avoir plein d'idées différentes. Hein. Si ça se trouve, c'était Loki, les timekeepers qui font de la TVA dans un futur lointain. Tu vois,
C'est marrant quand il fait ses devoirs et qu'il étudie et qu'il a les réponses sur le terminal d'ordinateur qui est devant lui sur son bureau, il y a une question qui est « Si Thanos revient en arrière et mange une pomme avant que machin » avec les différentes réponses possibles qui sont différentes explications du voyage dans le temps. C'est un petit détail, mais c'est marrant de voir qu'il pose la question. Oui. C'est genre « Si Thanos revient et puis il se prend les pierres d'infinité avant qu'il les obtienne » ou tu vois, un truc du genre. Et c'est marrant qu'il pense à ce genre de choses aussi et à les mettre en petit easter egg. Il y a aussi Miss Minute qui est une sorte d'entité consciente, mais quand même un programme, mais on ne sait pas trop. Enfin, c'était intéressant de l'avoir interagir en petite mascotte lumineuse, mais qui a quand même un impact, enfin, une présence physique dans le monde. Donc, elle risque d'avoir plus d'importance qu'on ne le pensait à l'origine. Surtout que dans l'ascenseur, il y a un bouton qui est Miss Minute. Alors peut-être que c'est juste que ça l'a fait apparaître comme Alexa pour qu'on lui pose des questions. Mais peut-être que c'est aussi un étage où il y a un truc qui a à voir avec Miss Minute, on ne sait pas. Mais c'est vraiment du world building très efficace, quoi. En deux épisodes, j'ai l'impression que la TVA a toujours été là et tous ces éléments y contribuent énormément.
Ouais, il y a déjà plein d'endroits évoqués qu'on a envie d'explorer et qui sont probablement juste évoqués pour donner une consistance. Je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais il y a ce fameux département des cauchemars rapidement évoqué. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On a envie effectivement de passer plus de temps dans cet endroit-là, c'est certain. Ouais.
Je pense qu'on peut. Ah oui, je voulais aussi mentionner en parlant de Kang, dans les comics, Ravonna Renslayer et c'est un peu un love interest. Ils sont en couple à un moment où je vous avoue que je connais pas bien ce duo, mais il y a une histoire entre eux. Donc évidemment, ça évoque encore plus la présence de Kang dans le MCU. Ouais. Bon, je pense qu'on peut aller à l'apocalypse en 2050 dans le Roxcart, qui est un centre commercial qui est certainement dans la ville de Roxconn. Roxconn étant une des sociétés du MCU, une des sociétés majeures qui est plutôt des méchants, qui font des trucs, des armes, de la recherche, ce genre de choses. Et donc, en 2050, ils ont une ville à eux, avec un centre commercial à eux. Et il y a un ouragan apocalyptique niveau 7. D'ailleurs, on n'a pas évoqué Pompéi, mais c'était marrant d'avoir, genre, ils avaient un 7, c'était une rue et ils n'ont pas bougé de la... Bon, bref, peu importe. Et donc là, on rencontre, après quelques aventures et mésaventures, on voit le variant qu'ils sont en train de chasser et on se rend compte que c'est... Est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est Miss Loki? On ne sait pas, Lady Loki.
Alors du coup moi c'est une question que je me suis posée parce que du coup elle enlève sa capuche, on voit son visage, donc elle a l'espèce de couronne à cornes de Loki et en fait j'avais été un petit peu surpris parce que je trouvais qu'elle ressemblait pas spécialement à ce que pourrait être une Loki, en tout cas pas comme je l'imaginais.
Les autres Loki, c'est clairement le même acteur effectivement. Là c'est
ouais.
Encore que du coup, si elle avait des cheveux noirs, peut-être.
Et en fait, ça rejoint aussi deux. Ouais, et pour moi, il y a deux indices. Enfin, je ne sais pas si on peut les appeler des indices, mais il y a deux éléments en fait dans la confrontation qui m'ont mis le doute en fait parce que la première fois, il l'appelle Loki et elle
dit elle rejette pas le comme
nom. Ouais. Appelle-moi Randy. Et donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est faire valdinguer Loki dans le magasin, lui-même se fait la réflexion, je ne me traiterai jamais comme ça, quoi. Donc, ces trois éléments-là me font dire que peut-être, alors je suis pas sûr à 100%, je suis pas en train de dire que c'est Mephisto. voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intriguant, en tout cas, dans cette version-là. Il y a quelque chose qui cloche avec cette version de Loki. Alors, peut-être que c'est complètement Loki, hein,
c'est tout à fait possible.
Quelque chose spécial, mais voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que t'as un avis?
Je sais pas. Disons qu'il chasse quand même un variant de Loki et pas un variant d'autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'elle se ferait passer pour Loki? Peut-être parce qu'elle a besoin de Loki pour faire quelque chose. On sait pas. Mais je sais pas si tu veux parler du combat en lui-même, c'est pas forcément très intéressant. Encore que Loki, il attrape un... C'était quoi? C'était un Roomba dans son combat. Et donc, il a une sorte de télékinésie dont on ne savait pas qu'il l'avait. J'ai trouvé ça intéressant. Mais surtout, après, il y a cette attaque complètement folle. Et puis, Loki qui s'échappe avec Lady Loki, point d'interrogation. Mais donc, ça fait deux éléments avec des spéculations énormes. Et j'étais surpris que l'attaque ait lieu là, dès la fin du deuxième épisode. Parce que c'était le truc qui était... Nous, on se disait, bon, ça va être la fin, quoi. Ça va être la fin de la série. Il va y avoir plein de timelines qui vont être créées. Et ça va être, mais que se passe-t-il, machin? Non, non. Fin du deuxième épisode, elle envoie les grenades à timeline dans plein d'endroits, plein de moments. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je vais faire mon petit geek de relativité. C'est donner les années auxquelles ça se passe, les années terrestres auxquelles ça se passe, ça n'a vraiment aucun sens parce que le temps ne fonctionne pas de cette manière du tout. Mais bon, bref, peu importe qu'il y a des attaques, c'est vraiment le « Well, actually, if you listen to Einstein... » bon, bref. Le truc, c'est que ça envoie des bombes partout, à plein d'endroits différents. On voit Nivedalir, on voit Asgard, on voit... Et il y a plein d'années différentes qui correspondent plus ou moins à des événements qui ont déjà eu lieu ou non dans le MCU. Et du coup, ça met un énorme point d'interrogation sur la suite. C'était vraiment un moment où on se demandait ce qu'elle allait faire et on se disait peut-être qu'elle va envoyer des bombes dans la timeline sacrée. Et oui, elle l'a fait, mais c'est pas pour casser la timeline sacrée, c'était pour créer plein de... à des moments clés, visiblement, de toute l'histoire du MCU. Et ça crée plein de timelines différentes. Et du coup, c'est un énorme point d'interrogation, une série de dizaines de points d'interrogation.
Pour le moment, il n'y a effectivement aucune des branches qui a rencontré la ligne rouge. Donc pour le moment, on peut se dire qu'ils vont réussir à aller dans chacun des lieux pour résoudre le problème. Ça peut être d'ailleurs ça peut être simplement l'objectif de la suite de la série, d'aller réparer ces choses-là. Ou alors, on est effectivement en train de se diriger vers une destruction, entre guillemets, destruction de la timeline sacrée prévisible. Parce que c'est compliqué ce type de concept, tu sais, où tout est écrit. C'est que effectivement, et c'est ce que dit Loki hein, sur le free will, sur le je sais pas, je dis free will, mais en français, c'est quoi? C'est
le libre arbitre,
voilà. C'est que du coup, ça détruit un petit peu les enjeux dramatiques qui pourrait y avoir dans d'autres, tu sais, dans d'autres films, même si tu sais pas ce qui va se passer. Quelque part, il y a cette idée que, bon, de toute façon, tout doit se passer ainsi, il n'y a pas le choix, et c'est comme ça, et c'est tout.
Ouais, la discussion métaphysique entre Loki et Mobius est d'ailleurs hyper intéressante, et l'aller-retour entre le ping-pong, oui, mais toi, tu crois ça, oui, mais toi, tu crois ci, donc toi, t'es un Asgardien, tu penses que c'est comme ci, moi, voilà. Mais en même temps, il avoue bien, encore une fois, que... il le dit pas comme ça, mais il connaît pas les Timekeepers, il les a jamais rencontrés. Et d'ailleurs, le but, Loki dit à plusieurs reprises, je veux les rencontrer, mais personne les a vus, personne les a jamais vus. Peut-être que le but est de créer le chaos partout pour ensuite aller les confronter. Enfin, peut-être que c'est le but de Lady Loki d'aller voir les Timekeepers et d'en faire quelque chose.
Et cette séquence justement entre Mobius et Loki, il y a une phrase que je pense importante et que je trouve super intéressante, qui est Loki qui dit il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'aucun méchant n'est jamais vraiment méchant, aucun good guy n'est jamais vraiment bon, quoi. Et je pense que ça introduit effectivement le dénouement, la révélation sur les Timekeepers. Peut-être qu'effectivement, le maintien de cette timeline sacrée, en fait, elle ne sert pas du tout d'empêcher la fin de l'univers, mais de permettre à un personnage de devenir super puissant quoi qu'il arrive, peu importe l'embranchement, tu sais, enfin,
ouais, on peut imaginer... Ouais, effectivement, oui. Qui sont en train de... Et que, ah, c'est pas, voilà. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est genre, disons, au hasard, Kang le Conquérant, qui manipule toutes les timelines pour créer une timeline où lui domine tout l'univers, et que Lady Loki a compris son jeu, et va justement essayer de le... pas détrôner, mais enfin de l'arrêter, quoi.
Et du coup, pour explorer cette idée-là, il faut essayer de comprendre en fait ce que veut faire Marvel. C'est, est-ce qu'on est encore une fois, parce que bon, ça a été un petit peu le cas de Falcon and Winter Soldier, c'est, est-ce qu'on est dans le cas d'une série qui va finalement finir sur un statu quo, c'est-à-dire revenir en, comme si c'est le fait de pas avoir vu, est-ce que avoir vu la série change quelque chose ou pas, quoi? Falcon and Winter Soldier, au début et à la fin, on peut estimer qu'on est arrivé un peu au même point.
Disons que Falcon est devenu Captain America, c'est quand même mais ça peut se résumer en une phrase. C'est pas que tout le monde a changé.
Ouais, mais tu peux penser qu'il est devenu Captain America à la fin d'Avengers quand on lui a donné le bouclier, c'est tu vrai, vois. Ouais. Ça suffit. Et du coup, c'est ça en fait que j'essaie de comprendre avec Loki. C'est, est-ce que Marvel veut en faire quelque chose d'important et du coup avec un vrai impact, ce qu'on cherche finalement dans les séries, hein, depuis WandaVision, on essaie de trouver qu'est-ce qui va faire shifter le MCU, on l'a pas vraiment eu. Et est-ce que ils veulent le faire avec Loki ou est-ce que ils veulent que ça reste dans les films, quoi. Donc
je dirais que là ça reste un petit peu ouvert parce qu'ils ont vraiment introduit le concept des timelines différentes dans Endgame. Et donc si là ça fout le bordel et qu'il y a plein de timelines au sortir de la série, ils peuvent également raccrocher les wagons au début d'un épisode. Et on sait que Doctor Strange 2 c'est And the Multiverse of Madness, donc à un moment il va y en avoir des multivers, tu vois. Donc ils peuvent simplement dire à quelqu'un qui étudie, j'en sais rien, Stephen Strange, qui étudie la réalité, et en une scène, il se rend compte qu'il y a un truc qui s'est passé, et il ne sait pas très bien, peut-être même que Loki arrive dans son cabinet d'études, et il se retourne et dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Il explique « Ah, bah c'est le bordel, il y a plein de timelines maintenant. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder la série Loki sur Disney+. » Tu vois, ça serait possible, ou peut-être le faire de manière beaucoup plus habile que ça, mais Strange qui observe et qui voit la timeline qui se sépare et qui dit « Ah, merde, il y a plein de multivers, c'est la folie !» Tu vois, il y a plein de multivers, c'est la folie, Multiverse of Madness, et puis au cours du truc, ils expliquent, je sais pas. Donc je pense que c'est possible, donc, c'est aussi possible que toutes les timelines soient clippées.
J'espère qu'on va pas retourner à la fin de la saison 1 sur un... Ouais, un état du monde qui est plus ou moins identique, quoi. J'espère effectivement que ça va shifter des choses.
Bah, ce que je me dis, c'est que si on a le multivers qui est en train d'arriver, et clairement, d'après tous les indices qu'on a, entre le titre de Doctor Strange 2 et tout ce qu'on sait sur Spider-Man, et le rachat des propriétés, etc. En gros, ils ont vraiment besoin du multivers, ou en tout cas, ça serait tellement pratique de l'avoir, qu'à un moment, il va arriver. Et on sait qu'il y aura un multivers dans Doctor Strange 2. Ça serait quand même un petit peu étrange ou bizarre de créer un multivers là dans Loki et puis de supprimer toutes les timelines pour ensuite en recréer un autre, tu vois. J'imagine qu'au minimum, même s'il supprime toutes les timelines là, à la fin de la série, peut-être que la TVA qui empêche la création de différentes timelines et de différents univers... au moins ne sera plus là et ne pourra plus empêcher tout ça. Parce que sinon, s'ils sont toujours là à tout empêcher, il ne peut pas y avoir de multivers dans Doctor Strange, j'imagine.
Alors, moi c'est là où c'est assez délicat hein, pour Marvel d'expliquer ça, c'est qu'il y a les deux notions qui sont présentes en même temps. Il y a à la fois la notion de multivers, le fait d'avoir effectivement d'autres dimensions, et les histoires de timeline. Et c'est là
moi,
où c'est
devient
compliqué,
chose, hein.
C'est que...
Parce que si...
Eh ben, je crois pas, parce que regarde, tu vois, là, quand ils te montrent les différents Loki qui apparaissent, les différents Loki qu'ils ont déjà arrêtés, le Loki Hulk, il existe quelque part. C'est juste qu'il y a une version de ce Loki-là qui a été un variant temporel à un moment donné et qu'ils ont dû reset. Mais il n'y a pas de raison, tu vois, qu'il y ait ce Loki-là qui apparaisse de nulle part sans qu'ils s'en soient rendus compte à la naissance ou à un moment donné, quoi.
Ah, donc, mais ils viennent d'où, cela, tu veux dire ?
Pour moi, alors j'ai réécouté plusieurs fois l'explication des Timekeepers, la propagande, et c'est vraiment, il parle vraiment d'un multivers unifié au sein d'une seule timeline sacrée. Et donc moi, ce que j'ai l'impression, et je pense pas qu'il puisse faire autrement, puisqu'on a déjà parlé de multivers de d'autres dimensions avec Dormammu, avec la dimension miroir, la dimension, il y a déjà plein de dimensions quand même dans la MCU, même si c'est pas très spécifique. Donc je pense que c'est un peu délicat à manipuler comme ça, mais je pense que l'idée c'est plus la partie temporelle dont s'occupe la TVA et qu'il y a déjà un multiverse, mais qu'effectivement si tu rajoutes la notion d'embranchement de timeline au sein du multivers, là ça devient très compliqué.
Ouais.
Donc tu veux dire qu'il faut éviter à tout prix, quoi.
Qui aurait d'une part les différentes réalités qui sont créées par les variances dans la timeline, mais qui toutes ensemble font partie d'un univers, et qu'en plus de ça, il y a différents univers qui forment le multivers.
Ça a l'air compliqué quand tu lis comme ça.
Bah, écoute, mais bon, c'est marrant parce que, a priori, dans physique classique, quand on spécule sur la nature de la réalité des univers et des multivers, généralement, on parle effectivement, ces deux concepts sont très associés. Si on fait l'interprétation des many worlds, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on prend une décision, un petit peu comme en mécanique quantique, toutes les réalités existent en même temps, et le fait d'en observer une, enfin, c'est pas forcément que ça la collapse en une seule. Là, forcément, on parle, c'est presque de la science. Enfin, c'est pas de la science-fiction, mais c'est de la spéculation totale, cette histoire de multivers. Mais chaque décision, chaque chose qui se crée, qui peut avoir plusieurs issues, existe dans différents multivers et crée différents, enfin, dans différents univers,
ça,
crée
un univers
pour chaque possibilité, en fait. Tu vois, et c'est évidemment complètement...
C'est l'interprétation classique, effectivement, quand on parle de multivers, en général,
c'est ça, mais c'est lié à la timeline aussi, parce que ces univers sont des changements de décision ou de résultats de tout. Et quand on dit de tout, ça peut être, un atome en tape un plutôt qu'un autre, tu vois. Donc, quelques gazillions d'univers à chaque seconde.
C'est effectivement l'interprétation que moi j'avais, que quand on parle de multivers, c'est l'interprétation, en règle générale, en science-fiction, peu importe, c'est cette interprétation-là en général. Mais effectivement, c'est à l'écoute de l'explication de la TVA que j'ai vraiment la sensation qu'il y a une séparation entre les multivers et la timeline sacrée, qui sont des choses, des concepts différents, qui sont dissociés, quoi.
On aura peut-être la réponse à la fin de la série.
On l'aura ou pas, parce que de toute façon, ils n'ont pas intérêt. Enfin, je pense qu'en général, ce type de séries qui sont quand même, qui se veulent pas non plus super poussées, on va dire, d'un point de vue conceptuel. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un setup crédible, entre guillemets, qui leur permette de raconter leurs histoires. Donc, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça soit trop explicite, parce que si tu explicites trop, tu pousses les gens à trouver les cohérences et...
Les incohérences,
et effectivement, tu te fermes des portes si tu veux faire complètement autre chose après, quoi.
Alors, qu'est-ce que tu crois qu'elle fait, Lady Loki ? Est-ce que tu veux spéculer, ou avec toutes ces bombes envoyées partout dans la timeline sacrée ?
Alors, on sait, alors ça on l'a pas dit, mais on sait qu'elle a interrogé une agent de la TVA pour lui demander où se trouvent les Timekeepers. Elle dit qu'elle a révélé où trouver les Timekeepers. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Ça contredit un peu la sensation qu'on a qu'ils n'existent pas, mais voilà, c'est pourquoi est-ce qu'elle le savait. Donc on sait pas trop ce qu'elle lui a dit, mais en tout cas ce personnage là donc Lady Loki, pour le moment, cherche a priori à trouver quand même les Timekeepers, et elle a lancé ces bombes là. Donc moi, ce que j'imagine, c'est que ce truc là c'est une diversion. Que c'est une diversion pour que toute la TVA soit occupée, débordée à aller réparer tout ça. Et j'imagine qu'elle, maintenant, elle va venir chercher les Timekeepers. Donc, est-ce qu'elle va venir dans la TVA, ou est-ce qu'ils sont ailleurs, ou est-ce qu'il y a une autre chose ? En tout cas, c'est ça que je sens venir, quoi.
Qu'est-ce que tu penses de Loki, qui a décidé de la suivre ? Il la suit pour aider la TVA.
Il avait l'air hésitant quand même, hein. Il n'était pas... Je ne sais pas trop ce qui l'a poussé à traverser la porte. Et pourquoi est-ce que la porte était restée ouverte? Est-ce que Lady Loki a fait exprès, je sais pas, de lui laisser
Ça semble clair, oui. Elle a laissé à Loki le temps de prendre la décision pour qu'il puisse la suivre s'il décidait qu'il voulait la suivre.
Mais tout était contre lui. S'il restait, je pense que la sanction aurait pu être immédiate, hein, parce que tout la TVA croit qu'il les a trahis, a priori.
Pourquoi?
C'est ce qui semblait évident. La personne qui l'accompagne était dans les pommes. Tout de suite, le soldat qui accompagne Mobius, qui relève, du coup, j'ai oublié le nom de ce personnage-là qui était avec Loki. Il dit tout de suite,
oui,
t'as vu ton Loki
soldat,
préféré
t'a trahi.
Ouais, voilà. Donc là, ton Loki préféré t'a trahi, etc. Donc il se met à la poursuite. Donc je pense que Loki n'était pas garanti de pouvoir expliquer concrètement ce qui avait pu se passer, quoi. Donc, et en même temps, j'ai l'impression qu'il va essayer de résoudre le problème. Donc il l'a suivi aussi pour, j'imagine, pour rester, pour pas perdre la trace de ce personnage, quoi. Parce qu'après, s'il l'avait perdu là, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire, mais je pense qu'aller regarder les autres catastrophes apocalypse, je pense pas que ça aurait été très utile, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça transforme un petit peu aussi la direction que semblait prendre la série, parce que on voyait l'équipe buddy movie, cop movie entre lui et Mobius. Là, alors peut-être que ça va revenir à la fin ou à l'épisode suivant, mais ça a l'air de prendre une toute autre direction. C'était assez inattendu, quoi.
Ouais, ça a duré un épisode, mais c'est très bien parce que vu qu'on sait que la série est courte, si ça avance aussi vite, pour moi, ça sent assez bon globalement pour la série. Je suis vraiment très satisfait. J'adore ce que je vois pour le moment. Ouais.
Ça serait incroyable qu'elle aille genre chez les Timekeepers à l'épisode suivant et qu'on voit déjà les Timekeepers et qu'on résolve cette question genre dans un ou deux épisodes de est-ce qu'ils existent. Mais où tu vas après, je sais pas, mais. Ouais. Ça serait hyper intéressant. D'ailleurs, on avait vu, généralement, on ne regarde pas les trailers dans cette série, dans ces podcasts, donc on ne va pas trop en parler, mais on a vu des images dans le premier trailer. Je crois que notre règle, c'est le premier trailer, on peut le regarder et en discuter. Après ça, on ne regarde pas pour les séries. Hein. Les films, on ne regarde pas de trailer du tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais et on n'en parle pas. Mais dans le premier trailer, il y avait une image dont on pensait que c'était, qui était très surprenante, et on pensait que c'était Natasha Romanoff à Vormir. Entre parenthèses, elle a envoyé un truc à Vormir, qui est la planète où
et
on
en,
trouve la...
En 2300 quelque chose, donc...
Ouais, donc plus tard. Mais... Mais donc, a priori, c'est sans doute pas Black Widow qui était à Vormir, c'était peut-être elle. Et du coup, peut-être qu'on va. Peut-être que c'était pas Vormir non plus, mais il y a peut-être des trucs. Enfin, bref, je veux même pas spéculer parce que.
si, ouais, j'ai vu, ouais, brève image.
On t'entend pas beaucoup, ça coupe un peu, je crois que tu dois parler plus fort.
C'est mieux là?
Ouais.
Ouais. C'est bon. Ouais, je disais, je me souviens maintenant de cette image à Vormir, effectivement très très rapide du trailer. Ouais, je sais pas trop ce qu'on va y trouver. Alors, en plus, il n'y a pas de relation particulière entre ce Loki et Natasha Romanoff. Donc, je suis assez, j'ai hâte en fait de savoir effectivement où est-ce qu'ils vont aller en fait, parce que du coup, il a suivi ce personnage-là et en même temps, on va peut-être suivre les autres personnages dans les autres timelines pour qui vont essayer de résoudre des problèmes. Donc je sais pas dire en fait effectivement ce qu'on verra tout de suite au prochain épisode, quoi.
C'est un peu comme et on va peut-être conclure là-dessus. C'est un petit peu comme dans Endgame où on revoit des endroits qu'on a déjà vus. C'est si on va aux différents endroits qui ont été bombés. On va revoir des endroits qu'on a déjà vus, mais peut-être à d'autres moments, ce qui serait intéressant. Ça fait un peu deux fois utiliser la même astuce, mais c'est pas grave, je le prends parce que ça me fera plaisir de voir ce qui se passe justement à Vormir ou à Nivedelir ou à Asgard à différents moments de l'histoire, certains qui sont très antérieurs au début du MCU ou très postérieurs. Mais ça sera en tout cas assez intéressant. Et ce qui est sûr, c'est que à la fin de cet épisode, on est. Mais je veux savoir la suite encore plus que pour n'importe quel épisode de n'importe quelle série du MCU jusqu'ici, hein, je crois. Bon, bah écoutez, on va conclure ce petit épisode de Super Laser Punch. Merci beaucoup, Johan. On a très, très hâte de voir la suite. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet jusqu'au prochain épisode?
Alors, bah, on peut me retrouver sur Internet, sur Twitter, à YohanT underscore, pour venir discuter avec moi de jeux vidéo principalement et pourquoi pas du MCU. Et aussi, bien sûr, sur le Discord du Rendez-vous Tech. Venez discuter de Loki avec nous, on sera ravis de vous accueillir.
Le lien vers le Discord est sur notepatrick.com. On pourra tous discuter ensemble, ça sera très sympa. Et pour ma part, je suis NotePatrick, toujours sur notepatrick.com. Vous retrouvez les liens vers tous les podcasts que j'anime. Le rendez-vous tech, évidemment, pour parler d'actu tech. Le rendez-vous jeu, pour parler d'actu gaming. Et Dieu sait qu'avec le 3, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Donc, j'ai hâte de vous retrouver là-bas. Et bien sûr, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode de Super Laser Punch, la semaine prochaine, avec le 3e épisode de la série Loki. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous!